Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adrabe la cosa, ding et don.
Non, attends,
alléluia. Écoutez la planète chanter. Atomique, jingles. Le kit d'habillage pré-produit pour votre radio. Près de 80 effets sound design pour illustrer vos voix. 10 baies de radio pour vos promos et speak antennes. 25 modules pré-produits pour des identifiants dynamiques. Plus de musique. Plus de... Insérez juste le nom de votre radio pour obtenir ceci. Plus de musique. Des bases rythmées.
Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et pour chaque mix, vous obtenez la version sans radio ou sans studio. La version bête seule, la version voix seule.
Plus de musique.
Non-stop. Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et les éléments qui composent le mix.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Messieurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire, le magazine de la francophonie Popourri Show en direct à l'Université de Toronto sur www.cut.fm. Aujourd'hui, l'ingénieur du son est DJ Devera. Au microphone, Eric Kader avec vous et nos invités dans un instant. On se dimanche, jour mémorable, 11 septembre 2016. Welcome on board, bienvenue. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, 15 ans après le 11 septembre 2001, de quelle manière le terrorisme a-t-il évolué dans le monde ? Est-il aussi menaçant qu'on le croit ? Est-il justifié de vivre dans un état d'alerte, d'exception et de guerre permanent ? Qu'adviendra-t-il des politiques des États-Unis et du Canada à l'heure où de nouvelles attaques rappellent le mauvais souvenir du 11 septembre 2001 ? 15 ans après, le 11 septembre, Internet transformé en mémorial international et 13 artistes donnent leur vision du 11 septembre. Avec une reprise du western Les 7 mercenaires où joue l'acteur noir américain Denzel Washington, doublement oscarisé, le rideau s'est levé jeudi soir sur le Festival international du film de Toronto qui fait une place belle au cinéma européen et aux femmes. Et oui, nos amis bretons sont au rendez-vous avec la fille de Brest. D'ailleurs, plusieurs bretons, amis bretons, famille, parents, suivent l'émission en direct en ce moment. On leur dit bien le bonjour. Et plusieurs films reflétant la réalité de notre planète sont à l'affiche, entre autres, la radicalisation et la crise identitaire des jeunes, surtout des jeunes filles. Et oui, nous allons avoir le coup de cœur de notre amie collaboratrice de toujours, Madame Marcelle Lynn, qui est la fondatrice de Ciné Franco dans la deuxième heure. Et après Moscou, Karlovy Vary, Melbourne, le film Mimosa est à l'affiche au Festival de film international de Toronto, dépouillé en envoûtant ce second long métrage d'un jeune cinéaste doué d'empreintes. Emprunte une voie plutôt de cinéma original et n'a pas démérité son prix à la Semaine de la Critique 2016. On parle beaucoup de lui, on a parlé de lui lors du Festival de Cannes. Nous allons, en exclusivité, madame, monsieur, tenez-vous bien, rencontrer le réalisateur espagnol Olivier Lax, qui est à Toronto pour son film Mimosa, dans la première heure, d'ailleurs dans quelques minutes. Et puis, pour nous joindre tout au long de cette émission un peu spéciale, 416-946-7000, si vous êtes dans la région de Toronto, ou encore sur facebook.com, Popourri Show, ou encore hashtag Popourri Show. 30 ans déjà, Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
C'est ici qu'ils se retrouvent chaque année. Quand le soleil se lève sur ce jour qui a bouleversé leur vie.
I went inside and I turned on a TV and I saw what millions of Americans saw.
That it appeared that that Boeing 757, the American jet, American Airlines jet, landed.
C'est le siège de la défense américaine. L'armée a mis des mois avant de diffuser la seule image furtive de l'attentat, saisie par une caméra de surveillance.
Dans l'est de Manhattan, il est 10 heures. La première tour vient de s'effondrer.
Actually very quiet. Nothing going on down there, no smoke, no fire, just a couple of people walking.
Evacuated. And there's, you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of.
Seul vestige des tours jumelles, le mémorial. Voici le symbole de la résilience. Cette tour de 541 mètres de haut, c'est le sommet de l'Amérique. Une journée radieuse pour une inauguration en grande pompe du nouvel observatoire du World Trade Center à New York.
J'ai un sentiment partagé d'espoir et de tristesse, mais plutôt d'espoir.
10 ans après les attentats, les New Yorkais n'oublient pas, mais ils veulent maintenant écrire une nouvelle page de leur histoire.
Wow. Et oui, le 11 septembre 2001 a changé à jamais le visage de l'Amérique et bouleversé sa diplomatie et sa politique sécuritaire. Les États-Unis restant depuis 15 ans en guerre perpétuelle contre le terrorisme djihadiste sans réussir à mettre fin au chaos au Moyen-Orient. Si le président Barack Obama, au pouvoir depuis janvier 2009, a refusé l'interventionnisme militaire à tout craint dans les guerres du monde arabe et tenté de réconcilier l'Amérique avec les pays musulmans, il laisse les États-Unis dans un état de conflit permanent contre la terreur islamiste, relève des experts. Et oui, le démocrate qui quittera la Maison-Blanche en janvier 2017 demeurera le président qui a sorti son pays des bourbiers d'Irak et d'Afghanistan, des conflits dévastateurs déclenchés par son prédécesseur républicain George W. Bush en riposte aux pires attentats de l'histoire et sous la bannière de la guerre mondiale contre le terrorisme. Mais même 15 ans après le 11 septembre, les guerres au Moyen-Orient, les métastases du groupe État islamique, la radicalisation en ligne et les attentats en Europe, surtout en France, en Belgique, en Amérique, empêchent d'enterrer le paradigme de la guerre mondiale contre le terrorisme, analysé lors d'un forum vendredi. Tamara Kaufmann-Witz, directrice de recherche à la Brookings.
القصة هذه كتوجد دائما على الأرض هي حنا اللي توجدنا فيها شنو أنا ملانا غاش قصوني أنا
غادي تمشي توصل واحد القافلة كاين واحد خونا اسمه أحمد الله فيه
هذا الشيء اللي بغينا
تعرف بأن الجبل ما فيه حتى شي تراب
يكون
راه خويك كتكذب عليهم
سلام على قبر يزار من البعد سلام
Et oui, madame, monsieur, nous venons d'entendre un extrait du film Las Mimosas, qui a remporté le grand prix de la semaine de la critique à Cannes au mois de mai de cette année. Un film maroco-franco-espagnol, Las Mimosas, a remporté le grand prix de la semaine de la critique lors de la 69e édition du Festival international du film de Cannes en France. Ce film fait un peu la tournée du monde après Moscou, Karlovy Vary, Melbourne, et ce film est actuellement à l'affiche au TIFF, le Festival international du film de Toronto. On nous dit un film dépouillé et envoûtant. Un long métrage donc de ce jeune cinéaste doué qui emprunte une voie de cinéma originale et n'a pas démérité son prix à la semaine de la critique 2016. Dans un instant, nous allons lui parler. Je pense qu'il est avec nous. Alors, on me fait signe qu'il est en route. Alors, il sera des nôtres dans un instant. Je vous rappelle que ce film est à l'affiche ici à Toronto, si cela vous intéresse. D'ailleurs, nous allons en parler de différents films reflétant les réalités de notre planète avec notre collaboratrice et partenaire Marcel Lynn dans la deuxième heure. Je vous invite aussi à aller sur le site web du festival pour avoir tous les renseignements sur les films de la semaine jusqu'au 18 septembre d'ailleurs. Alors, il fait beau, beaucoup de gens dans la place, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, et je vous invite à faire un tour et peut-être même, qui sait, rencontrer quelques vedettes du cinéma américain, français ou québécois. Ils sont nombreux sur place ici à Toronto. Alors, comme je disais, nous avons avec nous le réalisateur espagnol Oliver Lax. Vous êtes avec nous? Oui.
Oui, oui, bonjour.
Alors, on vous attendait un peu avant, mais j'espère qu'on aura le temps, parce que le temps passe très vite aujourd'hui. On voulait tellement vous accorder quelques minutes à l'antenne, parce que je pense que c'est très important. Vous êtes jeune, est-ce que vous êtes français, marocain, espagnol? Qui êtes-vous exactement?
En fait, je suis né à Paris, mais je suis émigrant espagnol. Oui. On est retourné en Espagne quand j'avais 6 ans.
Oui, alors, mais ce film a été tourné au Maroc, hein?
Exactement, ça fait 10 ans que j'habite là-bas.
Oui, alors pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce qui peut inspirer un jeune cinéaste de votre calibre par le Maroc et par ce film, le titre même de ce film qui est envoûtant et qui est dépouillé, qu'est-ce qui vous inspire?
Bon, moi je trouve qu'il y a une continuité entre les valeurs famille et de la région de laquelle je suis issu, la Galice, dans le nord-est de l'Espagne, avec le Maroc. Je me suis senti toujours chez moi et à part cette continuité, bon, je trouve que c'est un lieu où c'est impossible de se transformer. Moi, comme artiste, comme cinéaste, chaque projet est une opportunité pour me transformer, pour découvrir des choses. Et ce film était donc une quête personnelle profonde qui est sur l'extérieur, mais surtout l'intérieur, un film initiatique, non? Au long de ces 5 ans que j'ai travaillé dans ce film, j'ai surtout voulu mettre ma vie sous une nouvelle perspective.
Oui, on vous entend très mal, hein? La communication est vraiment très mauvaise, malheureusement.
Désolé.
Alors, racontez-nous un peu, quel est le fil conducteur de ce film?
Donc, c'est un film sur une caravane qui traverse les montagnes de l'Atlas. Il porte une famille, il transporte une famille. Il y a un chir, un maître soufi, qui est mourant et il veut retourner chez lui pour être enterré chez sa famille, avec sa famille. Pour mourir chez lui. Malheureusement, il meurt au milieu des montagnes et il y a un caravanier qui saute volontiers pour traverser ces dangereuses montagnes de l'Atlas, enneigées l'hiver, pour accomplir la volonté de ce chir.
Alors, sa dernière volonté, il faut bien le dire, était d'être enterré à côté de ses proches.
Exactement.
C'est la coutume là-bas, c'est les traditions, n'est-ce pas?
Ça dépend. La tradition rigoureuse dit d'enterrer vite le corps qui repose. Mais après, selon les cas, il y a des, la loi peut être réinterprétée. La tradition dépend des cas toujours.
Alors c'est un film émouvant et je pense pour quand on regarde un peu les extraits de ce film dont j'ai eu le bonheur et l'occasion de vivre, de regarder, on voit que monter un tournage de ce genre, ça prend quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de patience, mais aussi beaucoup de risques.
Bien évidemment, il y avait un risque de production parce qu'on a tourné dans des lieux, dans des repérages où personne n'avait tourné avant. On a dû faire des campements, beaucoup de fois. Voilà, il y avait énormément de risques avec quand même personne. Après, il y a des thématiques parce que la thématique de l'islam aujourd'hui irrite. Est quand même fragile, surtout dû la médiatisation du sujet et la déformation aussi, le retournement de valeurs auquel on assiste aujourd'hui. Et troisièmement, formalement, était aussi très risqué le film parce qu'il y a une narrative, il y a une linéalité claire dans le film, il y a un récit d'aventure clair, mais il y a aussi des moments qui invitent à la stupéfaction, des moments d'image où on fait confiance au cinéma et on fait confiance au spectateur, non, qui doit se laisser porter par les images et ne pas essayer de trouver du sens partout, sinon seulement expérimenter le plaisir des images.
Ces deux voyous, comment vous avez fait pour les repérer?
Ben moi j'habitais dans une palmeraie pendant 4-5 ans au sud du Maroc, à la porte du désert, à Vardozat. Et voilà, à part vouloir me transformer, aussi j'avais très envie de marcher pour ce film. Donc on peut dire que ce film a été une excuse que je me suis donnée pour pouvoir connaître toutes ces montagnes et déserts du sud du Maroc qui sont les plus soufflantes et d'une beauté scandaleuse.
Mais est-ce que c'est vrai qu'on peut se faire attaquer facilement par des voyous, des brigands?
Non, absolument pas. À l'époque, oui. À l'époque des caravanes, oui. Aujourd'hui, bon, le Maroc est un pays... je me sens plus sécurisé au Maroc que chez moi, en Espagne.
Ah, c'est vrai. Alors, il y a un côté humain. Est-ce que vous diriez que vous êtes un peu un jeune homme cinéaste engagé?
Oui, parce que j'ai pris le pari de faire un cinéma qui fait confiance au cinéma, donc qui fait confiance à la poésie, aux images, et le poétique est le plus politique qu'il y a. Il n'y a rien de plus engagé et radical que dans le poétique.
Alors, quelles sont les heures, les journées de projection à Toronto? Est-ce que vous les avez avec vous? Nous, on a tout ça quelque part.
À peu près, en fait, je sais que la prochaine projection est demain, je pense que vers 9h, je crois.
9h du matin.
9h du matin, ouais.
Pour le lève-tôt. Et donc, vous avez gagné un prix, la semaine de la critique à Cannes en 2016. Mais avant ça, vous avez déjà tourné un premier film, n'est-ce pas?
J'ai tourné à Tanger un film avec des enfants. On essayait de faire un film ensemble. On a gagné le prix de la critique aussi à Cannes à la quinzaine des réalisateurs.
Oui. Alors, je rappelle que ce film va faire sans doute le tour du monde parce que vous avez été à Moscou, n'est-ce pas? Melbourne?
Oui, on a fait Moscou. On a été en Australie. Là, on va faire Corée. La Sud-Amérique aussi.
Quel était l'accueil justement à Moscou et à Melbourne?
Mais j'ai pas eu le plaisir d'y être parce que j'essaye surtout de travailler dans mes prochains projets, donc j'essaye d'éviter la plupart des sorties.
Alors vous savez, aujourd'hui c'est une commémoration, 15 ans après le 11 septembre. Où étiez-vous le 11 septembre 2001?
Mais j'étais à La Corogne, en Espagne. Je me rappelle de faire une sieste.
Vous savez, j'étais en Espagne aussi. Nous étions peut-être voisins. J'étais en Espagne le même jour.
Ah, vous étiez en Espagne. Donc moi, j'étais en train de faire une sieste dans un parage très beau, idyllique. Et je me rappelle de me réveiller d'un coup et de me sentir bizarre et de me dire quelque chose s'est passé. J'ai eu une intuition, ça m'arrive pas beaucoup de fois. Je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose... J'ai senti une vibration... étrange.
Même
et bon, après, je suis retourné en ville et c'est quand j'ai su la nouvelle, en fait.
Est-ce que vous avez d'autres projets en vue?
Mais je travaille dans un film que je vais tourner en Galice avec des élèves d'une université dans laquelle je travaille. On va faire un tour de feu sur un pyromane. Et après, je prépare un film français c'est une road movie psychodélique. C'est des Français qui vont voyager depuis la France en Mauritanie, qui est un pays que j'ai beaucoup envie de tourner en Mauritanie. Donc voilà, après ce film marocain, je prépare un film galicien et après un français. Un peu pour célébrer que la culture est issue de mélange de cultures et que les cinéastes, les artistes, on est des bâtards.
Est-ce que le Canada, l'Amérique du Nord vous inspire pour tourner un film?
Bien évidemment. La nature ici est... Enfin, c'est une caricature, la nature chez nous par rapport à...
Oliver Lacks, juste en hommage, quelques mots rapides pour rendre hommage à vos acteurs dans ce film.
Pardon?
Juste un mot de la fin pour rendre hommage aux acteurs principaux de ce film.
Mais je les ai inventés tels qu'ils sont. C'est des amis, j'avais envie de partager leur beauté avec les gens. Donc voilà, qui veut connaître ma famille, avec qui il est bienvenu à voir mon film.
Alors, on vous souhaite un mot de Cambronne. Je suis convaincu que les gens seront nombreux à apprécier votre film. Si ça a passé à Moscou et à Melbourne, eh bien, Toronto, c'est la place. Et c'est la première visite, la première fois à Toronto, oui?
C'est ma première. J'avais été à Vancouver et à Montréal avec mon film précédent. C'est ma première à Toronto. Je sais
peut-être on aura l'occasion de se rencontrer avant votre départ.
Avec plaisir.
Allez, passez une bonne journée et surtout bienvenue chez nous et bon séjour.
Merci
à Toronto.
Infiniment.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci infiniment tous ceux et celles qui ont travaillé très fort pour nous aider à monter cette émission. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage et féliciter Winnie Wong, qui est relationniste et qui est en lien avec le Festival international de Toronto. Merci beaucoup, Winnie. Et surtout, merci à Oliver Lacks, réalisateur du film Mimosa, un film à voir absolument, Toronto, madame, monsieur, lors du Festival international du film édition 2016. Bon cinéma.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Popourri sur CIUT 89.5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
RFI.
À Paris.
RFI.
Tu m'emmènes aux Champs-Élysées. À Paris, il sera toujours Paris.
RFI.
Et oui, 15 ans après le 11 septembre 2001, de quelle manière le terrorisme a-t-il évolué dans le monde? Est-il aussi menaçant qu'on le croit? Est-il justifié de vivre dans un état d'alerte, d'exception et de guerre permanent? Qu'adviendra-t-il des politiques des États-Unis et du Canada à l'heure où de nouvelles attaques rappellent le mauvais souvenir du 11 septembre 2001? 15 ans après le 11 septembre, Internet transformé en mémorial international, 13 artistes donnent leur vision du 11 septembre. C'est à notre façon de rendre hommage, madame, monsieur, à tous ceux et celles qui ont péri, près de 3000 personnes qui ont péri dans cette attaque terroriste. Je suis convaincu que vous allez vous rappeler où vous étiez ce jour-là, pour nous, pour moi. Je me souviens exactement où j'étais ce jour-là, en Espagne. Et oui, alors, malgré tout, c'est une guerre permanente. Il y a des ressources militaires qui sont peut-être limitées dans certaines régions, sans doute, mais qui essaient de changer la stabilité de ces conflits. Et on verra bien avec les élections présidentielles au mois de novembre prochain qui sera le commandant en chef à la Maison-Blanche pour justement continuer cette lutte contre le terrorisme.
Ground Zero, littéralement point zéro, l'épicentre, est désormais le nom donné à cette gigantesque place au cœur de New York. Pourtant, ce n'est ni une bombe, ni un tremblement de terre qui a ravagé ce lieu le 11 septembre 2001. Mais derrière les images que tout le monde connaît, peu de gens savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là techniquement.
Il y a eu une énorme boule de feu et une partie de l'enveloppe extérieure a totalement été démolie. C'est tout ce que l'on pouvait voir depuis l'extérieur.
Comment ces gigantesques tours ont-elles pu s'effondrer ainsi? Quels phénomènes physiques hors normes ont compromis leur structure en seulement quelques secondes?
À mesure que l'incendie progressait, on pouvait voir la structure se détériorer. On voyait les colonnes extérieures de la tour qui commençaient à se tordre.
On a aussi donc des poteaux internes qui ont été soit sectionnés, soit fortement déformés, donc affaiblis par l'impact de l'avion.
Comment la structure du World Trade Center, pourtant réputée invincible, a-t-elle causé sa propre perte?
Est-ce que j'aurais pu concevoir les tours pour qu'elles résistent davantage?
Pour y répondre, nous allons partir à la rencontre des hommes les plus qualifiés. Scientifiques, ingénieurs, architectes, mais aussi ceux qui ont vécu ce jour-là de l'intérieur, au cœur des tours.
C'est un bruit qui terrorise.
Nous allons livrer une analyse inédite pour mieux comprendre l'attentat le plus marquant de l'histoire.
Les incendies étaient hors de contrôle à l'instant même où l'avion a frappé la tour.
L'acier a perdu pratiquement toutes ses propriétés mécaniques.
Tout se passe très rapidement parce que la gravité prend le dessus. Les étages s'écrasent les uns sur les autres.
Comment deux avions de ligne ont-ils pu anéantir ces colosses et transformer l'un des plus grands symboles américains en une catastrophe hors de contrôle? Mars 1966. Nous sommes à New York. Ici, au sud de Manhattan, débute un chantier faramineux, celui du World Trade Center. Un projet de complexe financier hors norme, capable d'accueillir à terme plus de 50 000 personnes. L'ouvrage est d'ailleurs si ambitieux que lorsque ses plans ont été dévoilés, ils ont immédiatement créé une controverse. Nombreux sont les New-Yorkais qui ne veulent pas de cet ensemble trop imposant. Il faut dire que de par ses dimensions, le projet a de quoi faire peur.
Pour leur projet de World Trade Center, l'autorité portuaire avait prévu de construire deux bâtiments de 80 étages. Et puis ils ont changé pour 100 étages. Et finalement, ils ont décidé de construire deux tours de 110 étages.
Le World Trade Center est littéralement sorti de terre pendant la guerre du Vietnam. Alors que nos troupes sont en train de perdre Vietnam, nous créons cet extraordinaire symbole de puissance. Plutôt que d'aller sur la Lune, c'est la Lune que nous amenons à nous. C'est incroyable.
Le World Trade Center sera composé de 7 buildings, dont deux gratte-ciel, les plus hauts du monde. Ils culmineront chacun à 415 mètres de haut et offriront un espace total de 930 000 mètres carrés de bureaux, l'équivalent de la moitié de Monaco. Leslie Robertson est l'ingénieur en chef des tours jumelles. Il a alors 38 ans, à projet démesuré, technologie révolutionnaire.
Nous avions quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas par le passé. Dans nos bureaux, nous avions d'immenses ordinateurs rien que pour nous. Nous étions ainsi capables d'analyser des choses que les ingénieurs ne pouvaient pas faire auparavant.
L'une des principales innovations du World Trade Center se trouve sous terre. À cause de leur proximité avec la rivière Hudson, l'enceinte du complexe est composée de multiples murs solidement posés et calés dans la terre new-yorkaise. Un véritable défi.
Le cauchemar des responsables du projet a toujours été que l'eau s'infiltre et vienne éroder les poutres d'acier des fondations et que les tours se renversent à cause de l'érosion.
Manhattan repose sur de la roche de schiste. Le schiste de Manhattan est très robuste. Les ouvriers ont dû creuser profondément jusqu'à cette roche.
En surface, la construction du World Trade Center relève elle aussi de l'innovation. Jusqu'à présent, les gratte-ciel, comme le fameux Empire State Building et ses 381 mètres de haut, étaient construits à l'aide de multiples colonnes porteuses réparties à chaque étage sur l'ensemble du bâtiment. Trop cher et trop contraignant pour un immeuble aussi haut que le World Trade Center, il a fallu imaginer une autre conception. Ce sera une structure en acier dite en tube à cause de sa forme. 47 colonnes enfoncées à 20 mètres sous terre sont réunies dans le noyau central. Et elles ne sont pas seules à assurer la solidité de l'immeuble. Chacun des quatre côtés de la façade est en effet composé de 59 colonnes qui contribueront elles aussi à assurer la stabilité de l'édifice. Jérôme Quiran est chercheur au laboratoire de mécanique et de génie civil à l'Université de Montpellier. Il a longtemps étudié la structure du World Trade Center.
C'est un défi de monter à plus de 400 mètres de haut pour les tours à cette époque-là. Et donc on essaye à ce niveau-là d'alléger au maximum la structure. C'est un vrai défi technologique et pour ça on va utiliser l'acier qui permet d'avoir peu de matériaux parce qu'il est très résistant.
Il y a en réalité différents types d'acier utilisés. Vous avez de l'acier renforcé à la base et de l'acier plus léger dans les étages. La taille des colonnes d'acier évolue en fonction de la hauteur. Vous avez donc des colonnes épaisses à la base et des colonnes plus fines en haut. Le but est de fournir la résistance nécessaire en fonction des analyses.
La construction en tube est non seulement censée offrir une stabilité incroyable pour un immeuble de cette hauteur, mais elle permet surtout de rentabiliser l'espace.
Les étages sont des open space, c'est-à-dire qu'entre le noyau et la façade, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun poteau.
Cela permet de réorganiser les espaces en à peu près tout ce qu'on veut. Nous avons même pu construire une salle des coffres, ce qui est évidemment très lourd, presque au dernier étage de l'une des tours.
Les tours sont si hautes qu'il a également fallu repenser la navigation des ascenseurs. À l'intérieur du noyau central, 23 ascenseurs express permettront d'atteindre deux plateformes, elles-mêmes desservies par 72 ascenseurs classiques pour accéder aux étages intermédiaires. Il faut seulement 58 secondes pour parcourir les 110 étages. Une vitesse qui permettra de sauver de nombreuses vies.
Pour que la circulation soit fluide, les ascenseurs doivent être vraiment performants et très rapides. Ils permettent d'évoluer dans tout le bâtiment en très peu de temps.
Balance.
cadence d'un tango pervers. Allez bien, on s'y frotte. Ma colombe, ma cocotte. Si la vallée sanglote du larme.
Il est 8h46 à New York, ce 11 septembre 2001, lorsqu'un premier avion percute la face nord de la tour 1 du World Trade Center. 15 ans après, les souvenirs des images, les témoignages et les 2973 personnes décédées ce jour-là au cœur de Manhattan reste entier pour des millions de témoins à travers le monde. À l'occasion de cette journée commémorative, les réseaux sociaux se sont mués en gigantesques livres d'or où les internautes racontent et livrent leurs souvenirs de cette journée. 15 ans après le 11 septembre, l'Amérique en guerre perpétuelle.
Alors, il y aura pour tous un avant et un après le septembre. On en parle avec l'historien, un spécialiste des États-Unis, François Durpère. Bonsoir. Alors, le monde découvre sidéré ces images. C'était le 11 septembre 2001. Le ciel était tout bleu ce matin-là à New York, avant l'effroi, percuté par des avions de ligne. Les tours jumelles de New York, de Manhattan, s'effondrent comme des châteaux de sable. Ces images, elles sont imprimées à vie dans nos mémoires. Ça change l'ordre du monde à ce moment-là.
Oui, tous les Américains se souviennent ce qu'ils faisaient ce 11 septembre. D'ailleurs, on a posé la question à Hillary Clinton et Donald Trump, les deux candidats, ce qu'ils faisaient le 11 septembre. Ils s'en souviennent, évidemment. Mais c'est il y a 15 ans. Donc il y a beaucoup d'Américains qui ne s'en souviennent pas parce qu'ils apprennent cette histoire dans les livres d'histoire. Ce sont tous les Américains adolescents et enfants qui ont moins de 15 ans. L'ordre du monde change et c'est la fin peut-être du XXe siècle comme siècle américain. Les Américains découvrent qu'ils sont vulnérables. Ils avaient gagné trois guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide. Moment unipolaire américain qui s'achève ce 11 septembre 2001.
Et ils sont touchés sur leur territoire national. C'était une première et donc après la suite des opérations, c'est au Moyen-Orient. Et ça continue, le chaos continue plus que jamais.
Oui, et le chaos continue, c'est la réaction de George W. Bush. 18 mois après ces attentats, il décide l'invasion de l'Irak. On sait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'armes à destruction massive. On sait qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de lien entre l'Irak et les attentats du 11 septembre. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le Congrès américain a voté une loi permettant aux victimes d'attaquer les vrais États qui pouvaient être derrière ces attentats, et en particulier l'Arabie saoudite.
Qu'est-ce que cela a changé dans le quotidien des Américains? Un renforcement de la sécurité? Il y a Guantanamo aussi?
Oui, et il y a là encore quelques jours, quelques semaines après le 11 septembre, il y a le Patriot Act. Et le Patriot Act, c'est une question fondamentale pour les Américains. Est-ce que le droit américain va venir à bout de la terreur ou est-ce que c'est la terreur qui va venir à bout du droit? Jusqu'à quel point l'état de droit peut s'adapter à ce contexte d'attentat, c'est presque le sujet de la campagne électorale aux États-Unis aujourd'hui et en France.
Et quelle est la réponse à cette question, justement?
La réponse, c'est que les Américains ont proposé à cette époque, quand vous alliez dans une bibliothèque, de ficher les livres que vous empruntiez. Mais les bibliothécaires ont résisté, beaucoup de citoyens américains ont résisté, et aujourd'hui, les Américains sont revenus sur le tout sécuritaire. Oui, pour la sécurité, mais oui aussi avec le vote du Freedom Act à la liberté, et évidemment au respect de la Constitution américaine.
Trump, est-ce que c'est une conséquence des attentats du 11 septembre, ce qui se passe actuellement aux États-Unis,
oui,
avec cette candidature?
Exactement. Trump veut ouvrir à nouveau ce chapitre de la peur. Barack Obama, en 2008, c'est celui qui a dit « nous allons dépasser le 11 septembre ». Et il l'a fait. Il l'a fait en retirant les troupes, notamment d'Irak. Il l'a fait également en abattant Ben Laden. Il l'a fait symboliquement en disant « il n'y a plus de choc des civilisations ». Donald Trump, c'est celui qui dit « nous n'avons pas fini avec le 11 septembre, il y a bien des civilisations qui s'entrechoquent ». On va voir dans la campagne Hillary Clinton qui va poursuivre le discours de Barack Obama, Donald Trump, lui, qui va dire « nous sommes toujours menacés par le djihadisme islamiste.
Les réponses dans quelques temps. Merci beaucoup, François Durpaire, d'avoir accepté notre invitation.
Mardi 11 septembre.
RFI.
Et oui, depuis le 11 septembre 2001, la première puissance mondiale est encore engagée militairement de manière limitée ou en appui logistique sur de multiples théâtres en Syrie, en Irak contre le groupe djihadiste, l'État islamique, en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Somalie ou au Nigeria face à une myriade d'insurrections islamistes. Le président Obama pense qu'il faut éviter les grandes guerres qui aggravent les choses, explique à nos journalistes Hussein Ibish, chercheur au Arab Gulf States Institute à Washington. Au contraire, le commandant chef démocrate a fait entrer ses militaires dans une nouvelle ère, drones, forces spéciales, formation d'armée locale. Et tout ça, je vous rappelle, a un coût. Le coût humain, par exemple, et financier, en est limité après la mort de 5300 soldats américains, 50 000 autres blessés et 1,6 milliard de dollars dépensés entre 2001 et 2014 en Irak, en Afghanistan, selon le Congrès américain. Cette politique militaire de Barack Obama avait culminé en mai 2011 lorsque des forces spéciales avaient tué dans sa maison au Pakistan le chef d'Al-Qaïda, en responsable du 11 septembre, Oussama Ben Laden. Et oui, pour M. Ibish, cet usage limité des ressources militaires ressemble à une guerre ininterrompue, dit-il. C'est même plus qu'une guerre permanente parce que les ressources militaires limitées ne peuvent rien changer à l'instabilité des conflits régionaux, critique l'analyste, jugeant que l'administration Obama a accepté que le chaos actuel soit insoluble. Reportage.
Nous nous sommes assurés qu'il ne puisse pas être arraché en cas d'impact.
La structure portante elle-même a été totalement repensée. Si les architectes ont décidé d'utiliser une nouvelle fois une structure en tube, la même que pour les tours jumelles, ils ont considérablement renforcé et protégé le noyau central. L'objectif est avant tout de sécuriser les 10 000 personnes qui travaillent ici.
Une des études a conclu qu'à l'avenir, les tours doivent avoir un cœur. Une structure intérieure suffisamment solide pour que les ascenseurs puissent continuer de fonctionner à l'intérieur de ce cœur.
Les systèmes de secours, cages d'escalier, ascenseurs et conduits d'aération sont donc désormais protégés par un blindage de 150 000 mètres cubes de béton armé. Grâce à ces innovations, le noyau central est désormais capable de supporter une charge de près de 10 tonnes par mètre carré. En cas de problème, une priorité, l'évacuation rapide et totale de la tour.
Le cœur du bâtiment, sa colonne vertébrale, est constitué de béton. Alors bien sûr, cette structure a des passages et des portes qui mènent aux ascenseurs. Mais c'est un système unique, très bien coordonné, qui est très résistant, très solide.
De nombreux ascenseurs de secours ont été ajoutés afin que les gens puissent évacuer plus vite. Ce qui a sauvé de nombreuses vies dans le World Trade Center, c'est que certains ascenseurs ont continué à fonctionner. Aujourd'hui, on a ajouté des critères supplémentaires pour les très hauts gratte-ciels et pour ceux qui font au moins 160 mètres. Have to have these kinds
of features. Des ascenseurs qui ne mettent que 47 secondes pour parcourir les 102 étages. Mais les architectes ont également dû trouver une solution pour éviter les escaliers enfumés en cas d'incendie.
Nous avons incorporé un système de pressurisation unique à New York. Ce qu'il fait, c'est qu'il pousse l'air à l'intérieur de la cage d'escalier. Et ça empêche la fumée d'y accéder. Comme ça, dans les escaliers, l'air est toujours respirable.
Pour contrer d'éventuelles attaques au sol, la structure de la nouvelle tour a aussi été renforcée à sa base. Impossible de s'en rendre compte à l'œil nu, mais les 60 premiers mètres du bâtiment n'abritent aucun étage, aucun bureau. Il ne s'agit que d'un bloc de béton armé, habillé de verre.
En s'approchant du bâtiment, les gens n'ont pas la sensation d'être face à une forteresse.
De nombreux scénarios catastrophes ont également été passés en revue. Des checkpoints permettent notamment de scruter chaque voiture et de connaître l'identité des personnes qui entrent sur le site. De nombreux autres éléments sécurisent la structure, mais impossible de les évoquer. La meilleure protection passe par le secret et la confidentialité.
Évidemment.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Este es Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Et ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle encore une fois que le rideau s'est levé jeudi soir sur le Festival international du film de Toronto, qui fait d'ailleurs une belle place au cinéma européen et québécois et aux femmes. Nos amis bretons sont au rendez-vous. Peut-être on aura l'occasion de les rencontrer aujourd'hui. Et plusieurs films reflétant la réalité de notre, ou les réalités de notre planète sont à l'affiche, entre autres la radicalisation et la crise identitaire des jeunes. Nous aurons les coups de cœur de notre ami collaborateur de toujours, Madame Marceline, fondatrice de Ciné Franco dans la deuxième heure, à ne pas rater. Je vous laisse avec les grands titres de RFI Nouvelles et on vous revoit de l'autre côté.
Jumbo, did you know Caribouni has a new time slot? Join us Sundays from 3 to 5 p.m. as we journey around the African continent and beyond, featuring the best in African music, artists, interviews and news. Tune in to Caribouni every Sunday from 3 to 5 p.m. on CIUT 89.5 FM. Thank you very much. Apoyamate.
The 23rd annual Guelph Jazz Festival and Colloquium takes place from Thursday, September 15th through to Sunday, September the 18th in Guelph, Ontario. Audiences can look forward to artists such as Not the Wind, Not the Flag, Amina Claudine Myers, Marianne Trudell, Ingrid Jensen, Jesse Stewart, Stretch Orchestra, and many, many more. The Guelph Jazz Festival runs September 14th through to the 18th. For additional information, check out guelphjazzfestival.com.
Boost your resume by studying abroad and get that dream job. Don't miss the Study and Go Abroad Fair on Saturday and Sunday, October 1st and 2nd at the Metro Toronto Convention Center North Building. Admission is free. Come early at noon to listen to our feature seminar. For more information, check the website at www.studyandgoabroad.com.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Fanny Blechner.
C'est la première inculpation après la tentative d'attentat à la voiture piégée à Paris. Une femme de 29 ans a été mise en examen ce samedi et placée en détention provisoire. Ses empreintes ont été retrouvées dans la voiture abandonnée le week-end dernier en plein centre de Paris, chargée de plusieurs bonbonnes de gaz. Trois femmes avaient déjà été arrêtées jeudi en banlieue parisienne. 293 personnes ont été arrêtées depuis janvier en France pour leur lien avec des filières terroristes, a déclaré ce samedi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. En Syrie, 58 personnes ont été tuées dans le nord-ouest du pays, dans la ville rebelle d'Idleb. Ces nouvelles frappes aériennes ont eu lieu alors qu'une trêve doit intervenir à partir de ce lundi, suite à un accord russo-américain, un accord approuvé par le régime syrien, mais l'opposition se montre circonspecte. Le Conseil de sécurité de l'ONU va préparer une nouvelle résolution imposant des sanctions à Pyongyang. Déclaration après le cinquième essai nucléaire de la Corée du Nord, qui a été largement condamné par la communauté internationale. La Corée du Nord qui a déclaré qu'elle ne plierait pas devant ce qu'elle appelle un chantage américain. Un séisme en Tanzanie ce samedi, au moins 13 personnes ont été tuées, 203 autres blessées dans le nord-ouest du pays. Le séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter a également été ressenti au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et au Kenya. Au Gabon, environ un millier de partisans de l'opposant Jean Ping ont participé à une marche blanche à Libreville pour rendre hommage aux victimes des violences post-électorales du 27 août. Elles auraient fait 3 morts selon le ministre gabonais de l'Intérieur. Les gardes-côtes italiens ont annoncé ce samedi avoir secouru environ 2300 migrants partis à bord de 18 embarcations de fortune. Ils faisaient route vers l'Italie. Depuis le début de l'année, le pays a vu arriver 124 500 personnes sur ses côtes. L'Union européenne va verser 115 millions d'euros supplémentaires pour aider la Grèce à accueillir les migrants sur son territoire. L'annonce a été faite ce samedi après la publication d'un rapport critique sur leurs conditions d'accueil. La somme versée devrait permettre d'améliorer les abris existants, d'en construire de nouveaux, mais aussi d'aider les réfugiés mineurs non accompagnés. En Espagne, le train qui a déraillé vendredi, faisant 4 morts, roulait peut-être trop vite selon les premières constatations de l'enquête. Les investigations se poursuivent. Le train était à destination du Portugal. 48 personnes ont été blessées dans cet accident. Un mot de tennis, la victoire en finale de l'US Open de l'Allemande Angélique Kerber face à la Tchèque Karolina Pliskova. 6-3, 4-6, 6-4. C'est le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière. Vous écoutez RFI les 2h et bientôt 33 minutes à Paris, minuit 33 en temps universel. Restez à notre écoute.
La radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Est-ce que tu vas partir? Nous nous aimions si fort. Juste avant de partir, des visages déchaînés, je regardais les villes s'enfoncer dans la nuit. La jeune fille pleurait en fouillant dans son sac, son ticket, ses amours. Je n'étais qu'un vaurien, un brigand, un crevard. J'étais un brise-rose, oh le mauvais garçon de cinématographe. Et j'arrivais trop tard, mon cheval avait soif. J'avais d'autres naufrages, d'autres renoncements. Et la mélancolie.
Je regardais les villes s'enfoncer dans la nuit. La jeune fille pleurait en fouillant dans son sac, son ticket, ses amours, son ticket, ses amours, son ticket, ses amours, son ticket, ses amours, son ticket, ses amours.
Pot-pourri chaud, 30 ans déjà.
C'est ici qu'ils se retrouvent chaque année. Quand le soleil se lève sur ce jour qui a bouleversé leur vie.
I went inside and I turned on a TV and I saw what millions of Americans saw.
That it appeared that that Boeing 757, the American jet, American Airlines jet, landed.
C'est le siège de la défense américaine. L'armée a mis des mois avant de diffuser la seule image furtive de l'attentat, saisie par une caméra de surveillance.
Dans l'est de Manhattan, il est 10 heures. La première tour vient de s'effondrer.
It was actually very quiet. Nothing going on down there, no smoke, no fire, just a couple of people walking.
Evacuated. And there, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of.
Seul vestige des tours jumelles, le mémorial. Un vieux piano nous donne un air sexy. La contrebasse répond en diablé. Sous leurs doigts, les notes semblent supplier. Mais où sont-elles ces voix pour faire swinguer? Les corps déjà très chauds veulent se déhancher. Donnez-nous un rythme pour nous éclater. Une seule raison pour se caresser. Mais où sont-elles ces voix pour faire danser? Les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui. Inspire votre chérie. Les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui. Trois filles en harmonie.
Derrière la scène, cigarette au bout des lèvres,
effluve sensuelle, touche de rouge à lèvres.
Elles attendent un peu pour faire monter la fièvre.
Voilà,
voilà que finisse la trêve. Les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, un son qui nous séduit. Les chiclets. Choubidoui, les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, trois filles en harmonie. Les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, on aime à la folie. Les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, les chiclets, choubidoui, trois filles en harmonie.
Au
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Este es Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto.
Et oui, l'émission Pot Pourri sur CUTFM fête ses 30 ans. Toute une année d'anniversaire riche en perspectives, nourrie par des échanges avec les acteurs locaux de la francophonie, des rencontres avec des éditeurs, des artistes, des professeurs, rythmés par des colloques, des concerts, et oui, avec des comédiens où à leur tour ils peuvent exprimer leur créativité. Soyez des nôtres. Je vous rappelle que l'équipe de la radio vous propose non pas un, mais plusieurs événements, rien que pour vous, à partir de ce mois. Le mois de septembre 2016 jusqu'au mois de décembre 2017. Grâce à l'expertise de son réseau unique de correspondants sur les 5 continents, l'émission Popourri innove et proposera à ses auditeurs des rendez-vous d'information et des magazines de RFI à travers son offre Nouveaux Médias. Les meilleures sorties du moment dans le monde francophone et des émissions sur les femmes, la santé, l'éducation et la culture. Popourri, c'est une émission de proximité diffusée chaque dimanche sur la bande 89,5 FM et sur le web www.cut.fm. Qui veut se rapprocher des cultures de chaque francophone de la région et du monde. Notre approche peut sembler commune, mais dans la pratique, elle développe de façon incessante une créativité grâce à nos partenaires, une régénération de ses programmes pour les garder en accord avec les multiples visages de ses auditeurs francophones. Si vous souhaitez parrainer une de nos émissions ou un de nos événements ou participer à nos émissions, veuillez nous envoyer vos coordonnées à pot.pourri@sympatico.ca. Et oui, madame, monsieur, le festival de films de Toronto, festival international, je vous rappelle, bat son plein avec plus de 110 films français cette année. Et oui, et donc 42 productions majoritaires françaises. Le festival de Toronto fait de nouveau la part belle au cinéma français. Et aussi, il y a plusieurs films québécois hein, qui sont à l'affiche. Les auteurs et les artistes français les plus prestigieux du cinéma contemporain sont à Toronto, si cela vous intéresse, de Bertrand Bonello à Benoît Jacquot, en passant par Olivier Assayas, Rebecca Slotowski, Isabelle Huppert ou François Ozon du Québec, ainsi que de nombreux talents émergents démontrent une fois de plus l'extrême diversité et dynamisme du cinéma français. Et oui, il y a plusieurs films hein, qui reflètent un peu nos réalités. Il y a par exemple ce film dont tout le monde en parle, La radicalisation et crise identitaire des jeunes au centre de plusieurs films. Radicalisation des jeunes musulmans, la recherche identitaire de filles déracinées ou encore le parcours de post-adolescents prêts à semer la terreur sont les thèmes de plusieurs des films présentés au Festival de Toronto et quelle coïncidence avec l'actualité française ces jours-ci. Les festivaliers, si vous êtes parmi ceux-là, eh ben, ils sont prêts à, vous devez prêter attention toute particulière à quelques films chocs qui prennent plus de relief avec les récents attentats en France et en Belgique et le départ de dizaines de jeunes Canadiens partis rejoindre les combattants du groupe État islamique en Syrie. Leila M, en première mondiale, c'était hier samedi à Toronto où le ciel attendra projeté jeudi au festival après avant-première au mois d'août à Angoulême en France, frappe par leur réalisme, mimétisme d'une quasi-routine de l'actualité avec de jeunes filles soudainement embrigadées dans des causes qui ne sont que pas leur quotidien dans des pays européens. Avec beaucoup de sensibilité, la réalisatrice néerlandaise Melke de Goog décortique la radicalisation d'une jeune lycéenne, Nora El Koussour, dans Leila M, celle-ci qui déplore que la lecture du Coran ne se fasse pas au sein de la cellule familiale, se révolte face à la volonté du gouvernement de bannir le port du voile intégral, et la jeune fille se rapproche de plus en plus des milieux intégristes, quitte Amsterdam et le nid familial pour rejoindre un camp d'entraînement, épouser un djihadiste, puis gagner le Moyen-Orient. Dans le ciel attendra, la réalisatrice française Marie-Castille Métion-Char retrace le parcours de Sonia, Noémie Merlan, 17 ans, et Mélanie, jouée par Naomi Amarger, et 16 ans, bien décidée, les deux, à rejoindre le groupe État islamique. Alors, donc, je ne vous dis pas plus, mais je vous invite à aller consulter le site web de tif.ca pour tout savoir. Et je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons accueillir ici même à l'antenne la fondatrice de Ciné Franco, Marcel Link, sera des nôtres pour nous donner son coup de cœur. Elle était là depuis jeudi lors du lancement officiel du Festival international de films à Toronto.
Sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Avez-vous appris la leçon de la vie?
Oui.
C'est le professeur Awolowo, président de l'ambiance.
Mon frère Sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
The sound of your city. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto.
Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le Festival de films international de Toronto bat son plein. Je vous rappelle que nous venons de recevoir un courriel disant que la rue King est complètement fermée. Si vous voulez déjeuner, dîner ou encore prendre un brunch, une bière ou quoi sur la rue King, au cœur du centre-ville de Toronto, en plein cœur du centre-ville, et oui, dans le monde des affaires, et ben, vous pouvez aller faire un tour aujourd'hui parce que la rue est complètement fermée aujourd'hui. Et on vous souhaite bon courage, bonne chance. Dans un instant, je vais vous donner la programmation complète du TIFF, mais aussi les coups de cœur de notre amie et collaboratrice Marceline, qui sera des nôtres dans un instant. Et oui, madame, monsieur, le Festival international du film de Toronto bat son plein. Vous avez jusqu'au 18 septembre plusieurs grandes pointures vedettes du cinéma sont à Toronto. Le réalisateur québécois Xavier Dolan ainsi que des acteurs Denzel Washington qu'on a vu sur le tapis rouge jeudi soir, James Franco, Natalie Portman, Adam Driver et Scarlett Johansson sont également parmi ceux attendus au festival. Et je vous rappelle qu'il y a aussi le québécois Denis Villeneuve avec son film Arrival qui fait un vrai tabac dans plusieurs festivals et entre autres aux États-Unis. Philippe Falardeau, The Bleeder, Chloé Robichaud avec son film Pays, Anne Aymon, Nelly et Kim Nguyen, Un ours et deux amants. Alors, très jeune encore, Vincent Biron viendra aussi présenter son premier long métrage, Prank. Et puis, je vous rappelle qu'il y a Emmanuel Berco de Brest, dont le précédent film, La tête haute, avait été programmé en ouverture du Festival de Cannes en 2015, présentera son dernier long métrage, La fille de Brest, cette semaine, le début de la semaine, en première mondiale à Toronto. Et bienvenue donc à tous nos amis bretons. Je pense que maintenant, nous allons dans la salle F. Ou la salle C pour Ciné Franco, voilà justement. Bonjour madame, ça va?
Bonjour, oui ça va bien, merci.
Madame cinéma est en forme. Vous oui. Roulez votre bosse comme on dit ou bien vous roulez votre chaise?
Je roule ma chaise plutôt.
Merci beaucoup d'être là Marcel.
Ça me fait plaisir.
Et alors, vous avez eu l'occasion de voir quelques vedettes?
Non, parce que moi, je cherche des films pour Ciné Franco, comme vous le savez. Et puis, je fais plutôt les films qui se déroulent pour la presse et l'industrie.
Oui.
Alors, donc, je ne perds pas trop mon temps à faire du stargazing.
Mm-hmm.
Mais ça m'excite toujours quand je vois quelqu'un qui passe devant moi. Je dis ah, j'ai vu quelqu'un.
Oui. et vous n'avez pas rencontré le réalisateur qu'on a interviewé au début de l'émission, Olivier Lax, non?
Non. Je suis désolée.
Très, très beau, hein?
Oui, ouais. Tout à fait, mais non.
Et très intelligent.
Oui, mais moi, je reste... J'ai un petit peu des œillères, hein? J'essaye d'aller d'un cinéma à l'autre, très péniblement, mais j'y arrive.
Oui. Ce qui est très intéressant, de plus en plus... On ne voit plus. Au début, on disait qu'il y avait un réflexe du cinéma de Hollywood à Toronto. Et là, on voit que de plus en plus, il y a un détachement de Hollywood. On a des films, des petits films, des documentaires qui sont réalisés, des collaborations hein, entre plusieurs pays. Je parle ici de ce réalisateur espagnol, marocain, français, qui tourne son film au Maroc.
Oui,
c'est sous-titré
oui.
en français. Oui. Et c'est adorable. Les gens l'aiment. Mais il est allé à Melbourne, à Moscou. Imaginez Moscou.
Je sais, Moscou, oui.
Et tout ça parlant d'un pays arabe et puis d'une culture totalement différente de Nord-Américain.
Tout à fait. Il y a eu un progrès énorme, justement, du TIFF. Et moi, je me disais tout le temps, parce que Ciné Franco, sans être, bien sûr, prétentieuse, hein, a été le pionnier de beaucoup de films marocains, tunisiens, algériens que j'ai amenés pendant très longtemps, puisque Ciné Franco va fêter ses 20 ans l'année prochaine.
Mmh.
Et donc, je me disais, pourquoi le TIFF n'avait pas cet élément? Et maintenant, ça y est, depuis 2-3 ans déjà, j'avais remarqué, une fois qu'ils avaient fait la planète Afrique, maintenant, ils font vraiment une plateforme totalement mondiale, avec des pays du Moyen-Orient, des pays non anglophones, finalement.
Oui.
Voilà.
Et ce qui est encore plus palpitant, renversant, là, j'invente des mots, hein.
Oui,
corrigez-moi,
oui.
S'il vous plaît, madame.
Non.
C'est que on parle des réalités de notre planète.
Oui,
on parle
oui.
du terrorisme.
Oui. Je suis fascinée par ces films-là. D'ailleurs, un de mes coups de cœur, c'est Le ciel attendra. J'ai beaucoup de mal avec le nom de la réalisatrice, mais c'est un film qui m'a ouvert les yeux sur la radicalisation des jeunes adolescentes en France. Et c'est l'histoire parallèle de deux familles dont les jeunes filles ont été frappées par ce lavage de cerveau, en fait.
Oui. Et quelle coïncidence, parce qu'il y a quelques jours à peine, on a arrêté trois jeunes filles, justement, en France.
Exactement. Mais je crois, enfin, non pas que je crois, je suis sûre qu'il y a un côté visionnaire du cinéma qui explore qui explore des situations dans tous les cas et qui n'est jamais loin de la réalité.
Mais, et il y a beaucoup de premières mondiales à Toronto.
Oui, oui, absolument. Je ne sais pas si je peux parler de la première mondiale de France, de François Ozon.
Je l'ai justement devant moi.
Oui, oui. je sais qu'il est sorti à Paris le 7 septembre.
Ouais.
Mais c'est un film magnifique de 2 heures sur le nationalisme, sur sur l'amour, sur justement la guerre, mais la guerre dans son individualisme, c'est-à-dire la culpabilité de devenir meurtrier, en fait. Hein.
C'est cette jeune fille qui va tous les jours sur la tombe de son fiancé.
Voilà, et qui découvre la présence d'un homme, d'un Français, qui se recueille sur cette même tombe et qui la fleurit. Et c'est le mensonge. Enfin, je ne veux pas trop dire parce que c'est un film qui se découvre non seulement par sa beauté d'image, mais par la beauté de l'intrigue.
Et il y a une certaine réaction passionnelle, disons. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, je rappelle aux gens que c'est un film de François Ozon qui est très reconnu maintenant, on pourrait même dire mondialement.
Oh,
et
oui.
Je vous rappelle que le 12, donc, ce film est joué à 9h45 ou 21h45. Le soir, et puis il y a aussi d'autres représentations le 14 à 16h et le 17 à 9h30. C'est très tôt, hein. Je vois, il y a des films qui se jouent à 8h
oh
du matin.
Là,
hein.
Oui, oui, ouais. Je sais, c'est très tôt, et enfin bref, on essaie d'y aller.
Ouais.
Je sais que j'ai manqué ce matin Leila, qui est également un film, qui est un film hollandais, sur la radicalisation d'une jeune marocaine. Voilà, je crois, le terrorisme, la radicalisation est un sujet qui fascine. Si je me permets, Ciné Franco va faire un mini-festival au mois d'octobre, du 27 octobre au 1er novembre, et nous avons également un film. Alors là, c'est en avant-première que je vous le donne, qui s'appelle Made in France.
Wow.
Et qui est aussi très, très, très fascinant. Alors voilà, pour d'autres films que j'ai vus parlant de la francophonie, j'ai été fascinée par Nelly, d'Anne Aymon. L'actrice Mylène Mackay est superbe, elle joue formidablement bien, et je pense que c'est surtout par elle et pour elle que j'ai aimé ce film, que j'ai trouvé un tout petit peu sinueux, pas difficile à suivre, mais un peu difficile à suivre quand même. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Pour parler de films non francophones, mais anglophones, j'ai adoré Chasing the Train, John Coltrane. J'aime beaucoup le jazz. Et c'est un documentaire hommage à John Coltrane, à la fois plein de musique et de ses compositions qu'il a faites. Donc, la bande sonore extraordinaire qui montre l'évolution d'un John Coltrane drogué qui a réussi à surmonter son addiction et qui devient le John Coltrane qu'on connaît, en passant par Miles Davis. Et puis il y a un fond historique de la ségrégation, des traitements meurtriers des blancs vis-à-vis des Africains, des esclaves. C'est superbe, ce film. Moi, je le conseille. Et pour parler aussi d'un autre film qui m'a totalement surprise, c'est Joel Chingwe's Consolation. C'est un film australien décrivant le meurtre de Joel Chingwe par une dingue, une dingue, mais je ne veux pas en dire trop, parce que c'est un film qui est plein de suspense et qui est vraiment bien fait, et ça m'a beaucoup, beaucoup surprise, j'avoue.
Et 150 mg, la fille de Bresse.
Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ces films-là.
Vous savez, aussitôt que les gens ont atterri ici à Toronto, j'ai reçu plein de messages de mes amis et de ma famille de Bresse, de Bretagne. Ils disent, alors, tu vas les recevoir ?
Voilà, voilà.
Alors, il faut quand même rappeler que c'est un peu une réalité que les Français ont vécue. Hein.
Oui, oui. Mais je vous avoue ne pas connaître le film encore, donc je pourrais pas.
Cela se passe dans un hôpital de Bresse. Un pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes de la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator.
On
en a beaucoup parlé en France, le Mediator.
Oui, c'est vrai. Je sais qu'il y a eu, des poursuites judiciaires. Je suis au courant, mais du film, je ne le connais pas.
En première mondiale, avec Emmanuel Berko et Sidse Babette Kudsten.
Oui. Oh, j'adore cette actrice. Oui.
Alors, le 12, donc c'est le 12, vous avez encore du temps à 8h30 du matin, madame.
Oui, je sais.
Ou encore le 13 à 17h, le 13.
Bon, alors peut-être que si c'est public, je ne sais pas si j'irai, mais enfin, oui. Je voulais mentionner un film tout à fait délicieux qui s'appelle Ma vie de courgette. Et c'est une animation. Je fais un peu de recherche également pour Ciné Franco Jeunesse. Et j'ai vu deux films dans cette optique. Un qui s'appelle donc Ma vie de courgette. C'est une animation suisse qui a obtenu de grands prix à Annecy. Et qui parle d'un petit garçon qui se retrouve dans une sorte d'orphelinat.
Courgette n'a rien à voir avec un légume, hein, non.
Non. Non, quoique je pourrais dire que ma vie de courgette en ce moment, non.
Courgette, c'est un vaillant petit garçon.
C'est un vaillant petit garçon qui s'appelle en fait Icar, parce qu'il a ce cerf-volant et il pense à son père. Et il est très attaché à sa mère qui l'appelle Courgette. Et il croit que c'est un compliment en fait. C'est une mère alcoolique. Qui va périr d'ailleurs. Je dirais pas comment, mais bon, parce que je veux garder la surprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est délicieux et qu'il faut absolument aller le voir si on en a l'occasion.
En présence de Claude Barassa d'ailleurs, qui sera sur place.
Bien sûr, oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi, je sais qu'il y a un film qui fait beaucoup parler de lui et qui est... un film qui met en scène Isabelle Huppert, hein, c'est Elle de Paul Verhoeven.
D'ailleurs, elle est à Toronto. Hein,
oui, parce qu'il y aura une conversation avec elle. Mmh. Elle a encore deux autres films que je n'ai pas eu l'occasion de voir.
Ce que je trouve, cette actrice, elle est très, très facile à interviewer, puis elle est très humaine, je trouve.
Oui, je n'ai pas eu le plaisir de la rencontrer.
Très accessible.
Enfin, je l'ai rencontrée en personne, mais juste pour dire bonjour, il y a quelques années au TIFF, quand elle était dans un film. Je l'ai vue également passer devant moi quand j'étais à Paris Cinéma, il y a 2 ou 3 ans, où elle jouait aussi dans un film. Elle était très souriante. Elle est belle. Elle a quand même plus de 60 ans, elle ne fait pas son âge du tout. Elle est très, très mince, elle est très avenante, mais je ne la connais pas personnellement. Je l'aime beaucoup en tant qu'actrice, bien sûr. Elle est d'une finesse et d'une grande intelligence. Et je suis vraiment contente qu'elle ait obtenu tous ces prix dans sa carrière.
On me dit qu'il y a Benoît Jacquot et Julia Roy qui seront à Toronto aussi.
Ah d'accord. Je veux bien. Je suis sûre. Il y a une super délégation d'ailleurs d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs aussi, de distributeurs français, grâce à Unifrance d'ailleurs. Oui. Qui les amène là.
Et RFI, bien sûr, qui nous aide avec tous ces éléments sonores. C'est incroyable.
Oui. Oui, c'est... Non, mais la France fait un travail extraordinaire de, je dirais, de promotion. Hein, et c'est très, très bien. Je voulais parler aussi d'un autre film, c'est Marie Curie. Je connais le titre qu'en anglais, The Courage of Knowledge. Je ne sais pas s'il a été traduit comme ça en français, mais c'est un très très beau film sur la ténacité, le courage, la précocité de Marie Curie par rapport à son temps, c'est-à-dire aux droits des femmes qui n'existaient pas. Et elle s'est imposée en tant que recherchiste, chimiste, et puis en tant qu'amante aussi. Mmh. Alors, c'est un très, très, très beau film qui se termine par des images un peu cocasses. C'est l'actrice, donc, qui est polonaise, actrice qui se balade dans le Paris d'aujourd'hui, dans sa tenue noire, je suppose de chimiste, et son vélo, et elle passe comme ça dans les trottoirs de Paris, très achalandée, et personne n'y fait attention.
Mmh.
Bizarre, hein?
Oui, oui, oui.
Mais c'est beau parce que cette idée, je la trouve très belle, parce que on vit avec les idées de Marie Curie, de Pierre Curie, d'Irène Curie, qui ont essayé justement de faire fondre les tumeurs cancéreuses, ouais, hein, avec les rayons X et les radiations.
Il y a aussi des films en provenance de l'Afrique. Hein,
oui.
Il y a par exemple Wulu de, oui, Daouda Koulibaly.
Oui.
Et c'est un beau petit film africain, bon, qui raconte la vie d'un jeune chauffeur de bus cherchant à s'en sortir, va parvenir à ses fins en entrant dans le crime organisé.
Voilà, je l'ai sur ma liste, celui-là.
Et puis, il y a aussi, oui, un film de Olivier Assayas,
oui,
que vous connaissez très bien.
Oui, The Personal Shopper.
Et avec Maggie,
oui,
Cheung.
Oui.
Et tout ça avec une vedette de cinéma d'arts martiaux à Hong Kong. Mais,
oui,
elle vient à Paris, elle ne peut pas parler le français.
Je sais.
Et ça peut arriver à n'importe qui. Hein.
Mais oui, tout à fait. Lui aussi, il est sur ma liste.
Oui, Maggie Cheung.
Pas... Oui, oui. Maggie Cheung, c'était l'épouse d'ailleurs d'Olivier Assayas.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Ah.
Si je ne me trompe.
Mmh.
Je voulais parler d'un film égyptien que j'ai vu aussi, qui m'a beaucoup enchantée. Mais enfin, il a un côté à la fois noir, mais un côté délicieux, des relations entre femmes. Ça s'appelle en anglais Brooks, je ne me souviens plus trop, Brooks quelque chose, et Lovely Faces. Comment ça s'appelle encore? J'essaie de... Enfin, c'est un film égyptien,
mmh,
qui est Brooks, Meadows and Lovely Faces. Voilà. C'est vraiment l'histoire d'un petit village avec un cuisinier, un traiteur qui est devenu célèbre. Et ça commence par le fait que on l'attend. Un homme puissant qui a beaucoup d'argent et qui aura acheté tout un village, dont le traiteur, qui avait quelques propriétés, pour démolir tout. Et donc, c'est un petit peu l'histoire de David et Goliath, David étant ce Farid, qui va tout acheter pour tout détruire, et le David, qui est ce traiteur, avec ses fils, et qui essaye de continuer les traditions de la cuisine égyptienne dans les mariages, et en particulier on assiste à un mariage égyptien, et c'est très joli, mais enfin le fait que ce Goliath est un peu mafieux aussi et est très jette une ombre.
Oui. Comme disait notre invité dans la première partie, tourner des films dans certains pays, que ce soit en Égypte, au Maroc,
oui,
ça doit être très pénible, dépendant du sujet qu'on veut traiter,
oui,
n'est-ce,
oui,
pas,
oui.
Mais c'est un défi énorme, hein, pour les réalisateurs.
Oui, c'est un défi énorme, parce que quand même, une fois que les efforts sont faits, qu'on a réussi à avoir de l'argent, qu'on a réussi à avoir des permissions, enfin, qu'on a réussi à avoir les acteurs. Il faut aussi, quand le produit est fini, le faire passer par des commissions de classification,
oui,
qui sont très dures.
Et souvent, donc, c'est très censuré aussi à la fin.
C'est justement,
oui,
ça. Et donc c'est pour ça que c'est tellement difficile. Je voulais aussi parler d'un autre film que j'ai vu qui s'appelle Birth of a Nation. C'est encore une fois l'histoire d'un prêtre, d'un prêcheur esclave, Ned Parker, je crois il s'appelle, que j'ai vu et qui m'a à la fois impressionnée, mais quand je suis sortie du film, je me suis dit c'est dommage que le film n'ait pas vraiment parlé de cette rébellion de 48 heures que les esclaves de Southampton, je crois, en Virginie, ont organisé en allant tuer leur maître blanc. Et ensuite, bien sûr, on connaît les conséquences désastreuses de cette rébellion de 48 heures. Mais c'est un film qui dure assez longtemps et cette rébellion ne vient que presque au milieu du film, après avoir assisté à des actes de torture visuelle qui impactent quand même l'esprit et qui révoltent, mais en même temps, on n'a pas reconnu les déchirements internes intérieurs de ces esclaves qui sont traités comme de la chair à canon finalement.
Et
hein,
si je vous disais bien. One sings, the other doesn't, l'une chante, l'autre pas, de Agnès Varda.
Oui, je connais bien. Enfin, si. je connais le film. Ça fait longtemps que je ne l'ai vu, mais oui, c'est Agnès Varda. Cléo de 5 à 7 que j'ai adoré. Bref, oui, tout à fait.
Et sera sur place. Écoutez, le temps passe tellement vite. Où étiez-vous le 11 septembre 2011?
Eh bien, le 11 septembre 2001, vous voulez dire.
2001, hein, oui, voilà.
Eh bien, je me souviens très bien où j'étais. J'étais au Varsity. Le matin, j'ai vu un film, vous allez rire, qui s'appelle The Fluffer. Je vous dirai pas ce que c'est. Au sortir de ce film, je suis allée aux toilettes et quelqu'un m'a dit, est-ce que vous avez regardé The Monitors, donc les télés à l'entrée? Et j'ai dit non. Elle m'a dit, je crois que c'est un film qu'on montre. Et je ne sais pas, j'ai vu un affolement total. Je suis allée voir les télés et c'est là que je ne sais pas, on était tous éberlués, on ne savait pas quoi penser parce qu'on était... On venait de voir un film, donc on part d'une fiction et on pensait que c'était une fiction. C'était horrible, horrible. Je suis allée voir un autre film dont j'ai oublié le titre parce que mon esprit travaillait. Je me suis dit, je peux plus rester. Je suis sortie et je me souviens que moi j'habitais à l'époque en banlieue, j'habitais à Richmond Hill, je ne savais pas et je passais les 10 jours à Toronto dans un hôtel et on s'est tous retrouvés. Je me souviens très bien de Marie et Richard. Richard qui n'est plus de ce monde, hélas. Je me souviens plus de leur nom de famille et on était dans un café avec Kathleen Carroll, des critiques de haute volée américains qui sont nos amis et on a passé des heures à parler et finalement mon mari et moi avons décidé de retourner à la maison. Et on s'est installé devant notre écran de télé et on est resté fasciné à absorber cette tragédie.
Oui, j'étais à Grenade en Espagne quand cela s'est passé et on est rentré à l'hôtel et on a vu le deuxième tour effondré. On pensait que c'était un film et puis tout de suite on a reçu des appels de la réception nous disant vous êtes en sécurité, tout va bien et tout de suite, ça il faut bien le dire, les Européens ont tout de suite mis en place des ceintures de sécurité pour les touristes et pour les étrangers qui étaient là, mais aussi pour tout le monde parce qu'on ne savait pas s'il y avait des répercussions.
Exactement.
Et puis là on rêvait, est-ce qu'on va pouvoir un jour revenir à Toronto.
C'est ça, oui.
Heureusement, après 10 jours, 15 jours après, tout s'était rentré dans l'ordre.
Oui.
Écoutez, ce sont des moments très forts dans notre vie,
oui,
notre
oui,
époque,
oui.
Et nous espérons que les gens ont appris à travers ces événements et que jamais il n'y aura de guerre, parce qu'on a vu encore des tentations de la part de la Corée du Nord cette
oui,
semaine.
Oui, je sais, je sais.
Et moi, ça m'effraie, personnellement.
C'est très effrayant, surtout de voir ces armes de destruction massive entre les mains de fous.
Oui. Alors, le cinéma, c'est un bon élément, n'est-ce pas, pour oui. se divertir, changer, mais aussi apprendre
oui,
à
oui.
connaître ce monde. Et il y a beaucoup de films, comme je l'ai dit au début de l'émission, qui reflètent les réalités de notre planète d'aujourd'hui. Et
fait.
Des rendez-vous incontournables. Vous allez peut-être rencontrer aussi des vedettes du cinéma français, des Américains sont ici. Il y a beaucoup de Québécois qui sont, beaucoup
oui.
de médias,
oui, oui.
beaucoup d'Européens. Alors, j'espère que vous aurez un peu de courage pour nous. Allez, continuez à balader dans les salles de cinéma de Toronto, cher Marcel. Je vous remercie infiniment de la part de tout le monde. Ça fait 30 ans qu'on est là.
Oui,
et
oui.
ça fait 20 ans bientôt, Ciné Franco, 30 ans d'émission
oui.
à l'Université de Toronto. Je remercie Oliver Lax, réalisateur du film Mimosa, Madame, Monsieur, qui était
oui,
en
oui.
onde. Winnie Wong, qui est relationniste en direct avec TIFF. Et bien sûr, RFI Musique, le journal Express de Toronto, DJ Devera et Marcel Lynn, un grand merci. Je suis tellement fier que vous soyez des nôtres. Et
merci.
Je vous souhaite bonne santé et bon cinéma. Voilà, on vous
merci,
laisse.
Merci.
Get to share.